Vous avez remarqué? Les Jeux Olympiques et Paralympiques approchent à grands pas. Ça va être un moment génial, de fête, de célébration évidemment. Et je ne sais pas dans vos cercles, mais de mon côté, une bonne partie de mes amis parisiens préparent leurs vacances d'été et se posent la question de mettre leur appartement sur Airbnb à cette occasion. Ça pourrait financer au moins en partie leurs vacances, alors ça tombe sous le sens qu'ils y pensent. De mon côté, c'est certain, je serai à Lisbonne, donc mon appartement parisien, dont je suis propriétaire, sera sur Airbnb pour cet été, pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques. D'ailleurs, ça me permettra de financer, en partie, mes vacances. Et vous? Imaginez ce que vous pourriez faire avec ce supplément de revenus. En réalité, votre logement pourrait rapporter plus que vous ne le pensez. Découvrez combien sur airbnb.fr/hôte. C'est airbnb.fr/hôte, H-O-T-E. Allez, place à l'épisode maintenant. Vous connaissez sans doute le podcast Métamorphose, qui cumule plus d'un million d'écoutes tous les mois. Mais est-ce que vous connaissez vraiment Anne Guéquière, la personne qui l'a créée? Anne, elle a écrit un ouvrage qui s'appelle « Va, vis et deviens conscient de toi-même », dans lequel elle se livre beaucoup, elle livre son histoire. Mais vous allez voir, dans cet épisode, elle livre des choses qu'elle n'a jamais dit à personne. On va parler évidemment de sa vie, de sa quête personnelle, de toutes les thérapies par lesquelles elle a pu passer, de ce qu'elle a pu traverser, pourquoi elle est arrivée là où elle est aujourd'hui, quels conseils elle se donnerait. C'est un épisode qui est assez émouvant, profond, que je vous laisse écouter. Allez, Vlan, c'est parti. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Anne.
Bonjour Greg.
Ça va?
Oui, ça va, et toi?
Bah ouais, ça va, ça fait hyper plaisir de te retrouver dans ce studio en particulier.
Oui.
Mais tout a commencé, et pour toi et pour moi.
Ouais, exactement. C'est beaucoup d'émotion de revenir dans ce studio des origines, pour moi en tout cas, de Métamorphose aussi. Ouais.
Exactement.
Grâce à toi.
Bah grâce à moi, grâce à Pierre-Henri là, qui nous enregistre.
Exactement.
qu'est-ce qu'on a besoin de savoir sur ton enfance, pour mieux comprendre ton chemin aujourd'hui? En fait, je me suis dit, finalement, tu es encore mieux placé que moi, finalement, pour le savoir, mais tout se joue, beaucoup de choses se jouent dans notre enfance. Et comme ce livre, il est beaucoup sur ton chemin, j'aimerais bien comprendre, c'est quoi l'information qu'on a besoin d'avoir sur ton enfance pour comprendre le chemin, justement, que tu as parcouru?
En réfléchissant, et c'est vrai que c'est toujours difficile d'avoir du recul sur sa propre enfance, et ça vient avec l'âge où on commence à mieux voir les différentes choses qui se sont mises en place. Et c'est vrai que chez moi, ce que j'observe, c'est que j'ai des parents, et notamment une maman, qui est très en quête de, on pourrait dire, de vérité, certainement avec un grand V, et qui est quelqu'un qui, je pense, de par elle-même aussi son terreau familial, parce que mon grand-père et son père étaient comme ça, sont des gens à la fois très curieux, mais qui s'interrogent aussi beaucoup sur le sens de la vie et de l'existence. Alors, ce qu'on fait en tant qu'être humain d'une manière générale, mais de manière, je trouve, très forte, en tout cas chez maman, qui m'a beaucoup initiée à des penseurs, à des lectures, à une forme aussi peut-être de spiritualité. C'est quelqu'un qui est assez intellectuel, pas d'un point de vue de faire des études très intellectuelles, mentales, mais en tout cas qui a beaucoup cherché, notamment dans les livres, chez les philosophes, chez les penseurs, dans la spiritualité, à comprendre le sens de l'existence. Donc c'est vrai que je viens quand même au monde, dans cette vie, avec ce terreau de ces personnalités, en tout cas autour de moi, beaucoup en questionnement. Donc ça, c'est assez fondateur quand même dans mon parcours. Voilà, si je devais te dire une chose.
Ouais, ouais, bien sûr. Et t'as pas fait, parce que t'aurais pu aussi, enfin j'imagine quand je t'écoute, faire une sorte de rejet de justement cette quête. Et toi, ou peut-être que t'as eu un moment de rejet et t'as été dans cette quête plus tard, parce que finalement t'as embrassé cette quête comme ta mère.
Sa quête, elle était peut-être pas aussi visible que la mienne aujourd'hui, qui en est fait mon métier, qui écrit des livres sur le sujet, etc. C'était une quête qui était assez intérieure, assez personnelle, et qui était pas, qui est toujours, puisque maman est toujours de ce monde, mais qui était pas une quête faite de prosélytisme. où elle cherchait à nous imposer des concepts, des façons de voir le monde, et puis qui, pour elle-même, a évolué dans le temps. Je crois qu'elle avait été beaucoup en rejet de sa propre éducation, qui était peut-être assez rigide, assez croyante, et donc elle avait rejeté une forme de dogmatisme, pour ensuite revenir à la foi d'une autre manière. Donc c'est vrai que j'ai eu un exemple, moi je suis aussi, j'ai eu une éducation assez religieuse, mais pas du tout strict d'un point de vue judéo-chrétien. Je dis souvent que mes parents étaient des cathos naturistes. Ce qui donne un peu le spectre, parce que forcément on se place dans le terreau des années 70, où il y avait quand même cette ouverture d'esprit par rapport à une forme de foi, mais qui était très libérée, avec aussi cette liberté des corps et un rejet de la société à ce moment-là, dans les années 70, qui était celle de nos parents, de cette génération-là en tout cas. Oui.
Et toi, alors du coup, ce chemin que tu as parcouru, pourquoi tout ce chemin en fait? Parce qu'il y a eu, bon, je ne connais pas toute la bio, mais il y a eu féminin bio, puis maintenant il y a métamorphose. Il y a un vrai chemin d'accompagnement, de transmission. Qu'est-ce qui fait que tu as fait ce chemin, toi, individuellement, et cette envie de partage?
Moi, j'ai fait ce chemin... Il y a eu plusieurs événements dans ma vie, notamment, d'ailleurs, bon, déjà depuis que je suis petite, je me sens quand même très en lien avec l'invisible, de manière assez naturelle, qui n'est pas forcément ni interfamiliale, peut-être que ça l'est, hein, et que je l'ai pas encore assez conscientisé, mais je me sens quand même très en lien avec des, voilà, avec l'invisible, avec la beauté, avec le merveilleux. Peut-être c'est lié à une forme aussi d'hypersensibilité dans ma façon d'être au monde. Et puis, c'est vrai que quand j'avais 20, 24, 25 ans, j'ai eu une amie, je le raconte d'ailleurs dans mon livre, qui à ce moment-là rentre dans les ordres. Elle est plus jeune que moi, elle a 22, 23 ans. Elle décide de devenir bonne sœur dominicaine dans un ordre dominicain catho. Et c'était une jeune femme qui était presque comme une cousine pour moi, on était très proches, très libre. C'était quelqu'un de assez fêtard, voilà, qui avait des petits copains. Et ce choix radical de se consacrer comme ça à Dieu du jour au lendemain, si jeune, dans mon parcours, va venir me bousculer et m'interroger effectivement énormément. En me disant, mais comment est-ce qu'on peut faire ce choix radical? Elle dit qu'elle a reçu un appel, qu'elle s'est sentie en fait appelée. Et là, je vais beaucoup me questionner et je vais aussi la rejoindre. Elle vit dans une forme de monastère. Alors, elle n'est pas dans un ordre qui est enfermé, un ordre priant. Elle est dans un ordre qui est plutôt un ordre mendiant, qui va aux rencontres aussi de gens dans la rue, des plus pauvres. Mais quand même, il se retrouve dans des endroits de comme ça de prière, qu'on pourrait qualifier plutôt de monastère, une vie un peu monastique. Et je vais aller à la découverte de cette vie et passer du temps, en fait, dans ces endroits-là. Et moi, qui suis en quête dans ma vie, je vais fortement m'interroger en disant, mais à quoi finalement je suis appelée moi-même? Est-ce que j'ai une vocation? Quel est le sens de ma vie? Est-ce que j'ai une forme de mission? Alors, j'aime pas trop ce mot de cette mission de vie, parce que je le formule pas du tout comme ça, en plus, à l'époque. Mais je me dis, à quoi je suis appelée pour être au service de moi-même, mais aussi de me mettre au service du vivant et du monde. Et c'est vrai que ces temps de désert et de silence intérieur, de prière aussi, va poser des graines très importantes de cette quête de sens dans l'histoire de mon parcours, à ce moment-là, en tout cas dans ma vie. Oui.
Et tu dirais que... Enfin, de quoi tu serais fière sur ton lit de mort? Parce que j'imagine que ce chemin, tu l'as fait, tu t'es posé cette question par définition, j'en